Bonjour à tous. Peuple de Dieu, c'est une joie pour nous, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu. Là où nous sentons bien, là où est déversée, comme dit le psalmiste au psaume 133, la bénédiction, la vie pour l'éternité. En tout cas, je suis content, nous sommes contents, mon épouse et moi, d'être avec vous ce matin, de partager ce temps d'édification spirituelle, parce que nous sommes le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu se nourrit de la meilleure nourriture qu'est la parole de Dieu. Amen.
Amen.
C'est une nourriture suffisante et complète et multivitaminée en Christ. Amen.
Amen.
Alors ce matin, je parlerai de la sagesse mystérieuse de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 2. Je lirai à partir du verset 6, des versets 6 à 16. Une longue lecture, mais qui sera la substance de cette prédication ce matin, selon ce que l'Esprit m'a inspiré à vous communiquer. Donc je reprends 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 à 16. Voilà, donc il y aura des textes que nous lirons ensemble, mais par souci d'économie du temps, d'autres textes seront cités. Amen.
Amen.
Prenez des notes et que le Seigneur nous bénisse dans ce voyage. Alors je lis le verset à partir du verset 6. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe en ces mots. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout, il n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Or nous avons la pensée de Christ. Béni soit le Seigneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots d'introduction pour, en quelque part, camper le décor de cette prédication ce jour. Dans le procédé de la révélation biblique, la sagesse de Dieu occupe une place très importante parce qu'elle nous permet de comprendre les projets merveilleux que Dieu a destinés pour nous dans sa grâce. Depuis l'ancienne alliance, Dieu n'a cessé de multiplier les formes de transmission de cette sagesse par le biais des prophètes qui ont annoncé des temps spéciaux et aussi une révélation spéciale, la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est dans cette optique que l'Épître aux Hébreux nous présente la sagesse de Dieu pleinement révélée par le Fils en ces mots: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, versets 1 à 4. La question qui nous est posée en ce jour, face à une telle preuve d'amour de Dieu, dans son désir de se révéler à nous, comment, peuple de Dieu que nous formons, représentons-nous la manifestation de cette sagesse mystérieuse? C'est-à-dire que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et il a parlé au travers du Fils. Cette sagesse nous est disponible maintenant. Mais maintenant, comment considérer dans notre vie pratique maintenant cette sagesse de Dieu dans notre marche de sanctification? Alors, revenons à notre texte, nous allons voir de quoi il en retourne. 1 Corinthiens 2, au verset 6, il a dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être vécus à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse, de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. L'apôtre Paul ici décrit la sagesse de Dieu dans son caractère formel, mais aussi multidimensionnel. L'auteur débute sa remarque en évoquant, au verset 6, la sagesse comme étant une sagesse formatrice. Cette forme de sagesse est destinée à transmettre des enseignements aux chrétiens spirituellement adultes. Parce qu'il parle ici que cette sagesse est prêchée parmi les parfaits. Donc nous comprenons ici, bien aimé, que cette sagesse nous permet de tendre vers cette perfection pratique dans notre vie quotidienne, à marcher non pas comme des enfants flottants, mais des enfants adultes en Christ. On ne le devient pas du jour au lendemain, certes. Comme un enfant qui apprend à marcher, ce n'est pas en sortant du berceau qu'il va faire ses premiers pas. Mais un jour, il va devoir marcher. Amen. Et ses premiers faibles pas vont déterminer l'adulte qui sera demain. Tremblant, balbutiant, mais c'est un adulte en formation qui va devenir un homme et bien stable, équilibré et utile au Seigneur. Donc cette sagesse nous est donnée parce qu'elle est d'abord formatrice. Et nous nous rappelons, noté 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17, qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le but étant que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc cette sagesse provient de la parole de Dieu, la parole suffisante, parfaite et vraiment permanente de Dieu, qui a un but, c'est de nous former, c'est de nous qualifier, c'est de nous équiper pour servir à la gloire de Dieu. Amen. L'apôtre poursuit en disant que cette sagesse aussi, en la décrivant, elle est supratemporelle. C'est-à-dire que c'est une sagesse qui n'est pas d'origine humaine ou encore terrestre. C'est une sagesse qui est élevée. Et nous pouvons dire amen. Si elle est élevée, c'est parce qu'elle a de la valeur. Et qu'aucune puissance ne peut la corrompre. Cette sagesse est protégée. Elle vient directement du cœur de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est une sagesse qui est élevée au-dessus de toute sagesse humaine. L'apôtre poursuit en disant que la sagesse de Dieu aussi, elle est transcendante. Elle surpasse les idéologies du monde, les philosophies. Et Jacques, le chapitre 3, versets 13 à 18, va aussi signifier cela en distinguant la sagesse terrestre et aussi la sagesse céleste. Donc il y a une sagesse qui vient des hommes, mais qui n'est pas utile au royaume de Dieu. Mais il y a aussi cette sagesse d'en haut. Amen. Et nous bénissons Dieu, que Dieu nous ait inscrits dans cette forme de sagesse spirituelle, supérieure et aussi vraiment bonifiée par Dieu. La véritable sagesse, Paul continue en disant, en la décrivant, elle porte le sceau de l'autorité de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 6. Paul s'y réfère, par exemple, au verset 1er, de 1 Corinthiens 1er, il dit ceci. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et nous disons amen. Parce que en Jésus-Christ, Dieu a tout déposé, nous allons le voir tout à l'heure, Dieu a tout déposé le mystère caché de la sagesse de Dieu. Il nous est révélé en Jésus-Christ. Et nous avons, comme dit Paul, la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Amen. Par l'Esprit de Dieu, Jésus est en nous. Et si Jésus est en nous, nous avons pleinement la révélation de toute la sagesse de Dieu, mais pourvu que nous puissions saisir les dimensions vraiment de toute sa nature. Et c'est pour cela le but de cette prédication en ce jour. Donc notez 1 Corinthiens 1er, versets 19 à 20. Je poursuis. Toujours en décrivant la sagesse au verset 7, il dira que cette sagesse est mystérieuse et cachée. Alors ici, la notion de mystère ne doit pas être comprise dans le sens de mysticisme, c'est-à-dire quelque chose d'obscur, inaccessible, quelque chose de mythologique. Non. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse, cachée, parce qu'elle est profondément ancrée dans l'être même de Dieu. Amen. Elle est placée dans les profondeurs même du cœur de Dieu. Et Romains 11, versets 32 et 36 nous dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrées et incompréhensibles. Qui a connu la pensée de Dieu? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc nous voyons que cette sagesse, Paul continue dans une progression en disant que cette sagesse est révélée pleinement dans le cœur de Dieu.
C'est dans les profondeurs de Dieu que se trouve cette sagesse. Elle est pleinement révélée, mais à ceux qui font une démarche d'humilité, à ceux qui désirent connaître Dieu réellement. Parce que Dieu déclare dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me serai trouvé mort. Donc Dieu n'est pas dans une forme de sagesse voilée, mystique, mythologique, où il faut des sortes de simples initiatiques pour parvenir à cette connaissance, cette sagesse. Non, Dieu nous a tout révélé. Maintenant, il y a une manière d'accéder à cette sagesse. Il y a des règles, et nous allons le voir. L'apôtre Paul continue en disant que concernant la volonté de Dieu de se révéler comme il veut, la Bible nous rappelle cette parole du Seigneur, et c'est Jésus lui-même qui le déclare dans Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les enfants ici, ce sont bien sûr les enfants de Dieu. Mais aussi les petits. Parce qu'il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à ce qu'il est, leur ressemble. L'enfant ici est symbole d'humilité, de dépendance à Dieu. Et c'est dans cette optique que nous pouvons vraiment saisir toute la richesse, toute la quintessence de cette révélation de Dieu en Jésus-Christ, parce qu'il faut comprendre le procédé. L'apôtre Paul nous parle ensuite de la sagesse de Dieu orientée. C'est une sagesse orientée, verset 7. C'est avant tout une sagesse destinée pour notre gloire. Quelle bénédiction, bien-aimé. Nous qui avons cru, nous qui ne connaissions pas Dieu, Dieu, avant même les siècles, nous avait destiné pour sa gloire. Amen. Et la sagesse de Dieu, c'est le chemin qui va conduire vers cette gloire. En Jésus-Christ, Dieu nous a créé un chemin. Et lorsque nous atteignons cette sagesse, il nous remplit de sa gloire. Le projet de Dieu a consisté à sécuriser dans la personne du Christ tous les trésors de bénédiction qui nous étaient nécessaires pour rayonner dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas le temps de tout parcourir, mais notez simplement Colossiens 2, versets 1 à 4. Et c'est là que la croix prend toute sa valeur, toute sa beauté, toute sa lumière dans nos vies. Parce qu'à la croix, précisément, c'est là que Dieu a mis le comble à cette sagesse. C'est là que cette sagesse s'est vraiment pleinement révélée. Parce que Satan, le diable, n'a pas compris la pédagogie de la croix. Parce qu'à la croix, un juste est mort. Un innocent a été livré. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, c'est donné. Et en lui, Dieu avait déjà posté ou encore vraiment placé tous les cadeaux de bénédiction pour l'Église. Et c'est pour cela que la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc déjà dans sa mort, il y avait déjà des bénédictions. À sa résurrection, il y a eu encore toutes sortes de bénédictions. Et tout cela a contribué à la semence de l'Église, et nous tous qui participons à la communion en Christ, eh bien nous sommes au bénéfice de tous ces trésors. Alléluia. C'est merveilleux, ça fait partie de la sagesse pleinement orientée de Dieu pour les temps qui nous étaient destinés. La sagesse de Dieu aussi, selon la prédication apostolique, est méconnue des puissants de ce monde. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Il se révèle à qui il veut. Mais Dieu ne répond jamais au cœur qui ne s'humilie pas devant lui. Dieu résiste, nous dit-il, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc ceux qui refusent de se soumettre à la sagesse de Dieu, à cause de la dureté de leur jugement, eh bien demeurent sous un voile spirituel, qui leur intelligence, nous dit la Bible, est voilée. Ils ne peuvent pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et seule une repentance authentique, seul un changement d'orientation permet d'accéder à l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie qu'est Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer cette première partie, Paul dit que cette sagesse est projetée par Dieu. C'est-à-dire que la sagesse divine s'harmonise avec le désir d'honorer la foi de ceux qui s'engagent à être fidèles au Seigneur. Poursuivons. Alors, allons au verset 10. Il est dit, Dieu nous les a révélés, c'est-à-dire toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, toutes ces dispositions bienveillantes, Dieu nous les a révélées par qui ? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Arrêtons-nous ici. Ici, Paul va parler du mode de communication de cette sagesse. Cette sagesse nous a, bien sûr, est partie des cieux, de Dieu, du trône de la grâce de Dieu, et a cheminé, est passé par la croix, et maintenant nous a atteint par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui, en nous, nous révèle Jésus, nous révèle ce que Dieu est, nous révèle ce qui plaît au Seigneur. Et comment marcher maintenant de sanctification en sanctification à la gloire de Dieu. Puisque nous avons reçu la semence de Dieu. L'Esprit, c'est la semence. Et c'est ce qui nous identifie au Père, à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, le Paraclétos, nous conduit dans les voies de la sagesse divine, parce que l'Esprit seul a mandat d'aller sonder les profondeurs du cœur de Dieu. C'est pour cela que, par analogie, Paul dira, « Mais je ne peux pas connaître ce qui est en vous. Seul votre esprit peut dire ce qui est dans vos cœurs. » Amen. De même que là, maintenant, nous sommes ensemble, mais nous avons des pensées dans nos cœurs. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais vous pouvez le savoir, parce que l'esprit, votre esprit, est dans votre corps et sonde votre cœur. L'Esprit de Dieu est la seule personne qualifiée et l'Esprit est par définition le gage de la communication de cette sagesse. La preuve que Dieu est avec nous. Alléluia. Je vous envoie un consolateur, l'Esprit Saint, qui sera avec vous et qui sera en vous et vous enseignera toutes choses venant de moi. Alors, il y a un texte très fort que je vous invite à prendre avec moi dans Éphésiens, le chapitre 3, les versets 14 à 21. Texte fort, fondamental pour le thème que nous étudions ce matin. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Voilà, je vous demande dans la lecture. Éphésiens 3, versets 14 à 21, qui nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Nous disons Amen. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quoi? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous voyez comment Paul précise les choses. Christ habite en nous par la foi, afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Notre vie doit avoir un sens, une direction, une saveur, une profondeur. Pourquoi? Parce qu'elle produit des racines. Et nous sommes vraiment à l'école de la sagesse de Dieu pour apprendre à discerner le temps de Dieu, la voie de Dieu, les priorités de Dieu, la volonté de Dieu. Et tout cela, il faut, ça demande du temps. Ça demande de marcher avec le Seigneur. Ça demande d'adhérer au projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu pour ma vie? Où veut-il m'emmener? Et marcher à la suite. Certes, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Il a payé le prix suprême à la croix. Et maintenant, par l'Esprit de Dieu, nous avons les armes de l'Esprit, les dons de l'Esprit, la manifestation de la grâce de Dieu. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Après une telle démonstration, nous devons avoir les mains comment? Les mains ouvertes. Pour accueillir avec reconnaissance toute cette manifestation d'amour. Et pour le faire, je vous invite à lire avec moi Éphésiens, chapitre 3, Éphésiens 1er, plus moins, les versets 3 à 14. Et dans ce texte, nous allons faire un exercice. Nous avons considéré la chaîne de bénédiction dont nous disposons pour marcher avec le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Nous allons le dire avec moi. À chaque fois que nous allons repérer une bénédiction, nous le dirons à haute voix. Amen. Et nous allons compter, en quelque part, les bienfaits de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Éphésiens 1er, verset 3. Nous sommes là?
Amen.
Nous y allons. Nous lisons ensemble. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont et celles qui sont en lui. Nous sommes devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de
sa
gloire. Acclamons le Seigneur.
là, nous avons le procédé de l'accomplissement vraiment, la réalisation, ou encore la matérialisation de cette sagesse de Dieu en Jésus-Christ communiquée par l'Esprit de Dieu. Et toutes ces bénédictions sont à notre disposition, ce sont des équipements spirituels pour nous aider à grandir, à marcher et surtout à ressembler à notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous avons vu comment l'apôtre insiste pour dire en lui, toutes ces choses sont consignées en Christ, cachées en Christ, sécurisées en Christ, gardées en Christ. Et Colossiens 3, verset 6 nous dit, Colossiens 3, verset 1 à 3 nous dit, notre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ paraîtra, notre vie aussi paraîtra aussi avec lui. Gloire à Dieu. Est-ce que cela nous pousse à persévérer, frères et sœurs? À tenir bon, quel que soit vent et marée, nous sommes vraiment visités par la sagesse de Dieu. C'est le plan merveilleux dans lequel Dieu a tout préparé d'avance pour que nous soyons des plus que vainqueurs en Jésus-Christ.
Amen.
Et nous le sommes.
Amen.
Amen. Alors nous allons vers la fin. Paul souligne aussi dans le texte de Corinthiens 2, verset 10 à 13, que la communication, bien sûr, est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, mais aussi, il y a aussi un langage. Il nous faut connaître le langage de l'Esprit. Amen. Dieu nous communique par l'Esprit de Dieu en employant un langage spirituel pour les choses spirituel. Cela veut dire que, bien aimé, pour intercepter le message de l'Esprit, il nous faut nous-mêmes être spirituels.
Amen.
Et non charnels. Parce que si nous sommes charnels, il y aura brouillage. Le message ne sera pas perçu. Mais l'apôtre dit que ce message, cette sagesse est révélée aux sages, aux hommes spirituels, adultes, mature en Christ. C'est-à-dire que ceux qui marchent vraiment dans l'obéissance de Christ et qui conçoivent le péché comme étant vraiment un accident de parcours et non pas une habitude de vie, pas un mode de vie. Le péché doit être accidentel dans notre vie, mais non pas comme une habitude, une accoutumance. Et bien sûr, nous avons l'Esprit de Dieu, le pardon de Dieu qui est là pour panser ses plaies, nous rétablir, nous restaurer, pour que nous continuions sous la voie de l'obéissance. Allons au verset 14. Il nous a dit que « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. » Amen. « Car qui a été connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Cette pensée de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Ici, il y a quelque chose d'important à souligner, c'est que les destinataires de cette sagesse sont de deux ordres. Il y a l'homme animal et aussi l'homme spirituel. L'homme animal, il ne faut pas le prendre dans le sens péjoratif, c'est-à-dire l'homme livré à son instinct naturel, qui n'a pas la connaissance de Dieu et qui n'a pas en lui la semence de l'Esprit de Dieu en lui. C'est l'homme à l'état brut, l'homme naturel, qui réfléchit, qui agit selon ses propres projets, sa propre vision, sa propre idéologie de vie. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau, qui est y a un conseiller, eh bien Dieu le Père, qui marche selon le conseil de Dieu. Le psaume 1er nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des bons cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, là où il y a le mouvement de l'Esprit de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu change les orientations. Là où l'Esprit de Dieu trace le chemin, donne la direction. Et Paul dit ici qu'il y a deux destinataires à cette sagesse. L'homme animal ou encore l'homme naturel ne reçoit pas, n'est pas ouvert à la sagesse de Dieu. Pourquoi ? Parce que dire que Jésus est mort sur une croix, c'est véritablement pas concevable. Qu'un roi si puissant puisse choisir une telle mort, ce n'est pas concevable. Et l'homme préfère rester dans ses égarements, dans ses réflexions, dans sa prise de position, au lieu d'accepter la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, qui maintenant vient vivre dans nos cœurs par son Esprit, afin de marcher avec nous, afin de vivre avec nous, afin de nous protéger, afin de nous tracer un chemin d'espérance. Amen. Et aussi de nous délivrer de nos ennemis, de nous délivrer de toute situation, car il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors pour nous qui sommes des êtres spirituels, gens de la maison de Dieu, nous devons comprendre le langage qu'emploie l'Esprit de Dieu pour nous faire atteindre cette sagesse, pour nous faire marcher dans cette sagesse de Dieu. Parce que Dieu a une manière de parler, il a un langage, il a aussi des expressions, il a des formules, il a des images qu'il emploie. Et c'est pour cela que l'apôtre aux Hébreux nous dit qu'il parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais il faut que nous soyons à l'écoute. Eh bien, nous bénissons Dieu, c'est là tout le programme que Dieu a déployé en Jésus-Christ, la prédestination au salut, l'accomplissement de ce salut, et maintenant l'application de ce salut par l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui est en nous. Mais tout cela obéit à la volonté de Dieu qui veut que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Alors je vais à la conclusion. Alors bien aimé, pour rendre visible l'accueil de cette sagesse mystérieuse de Dieu dans notre parcours spirituel, il convient de respecter les conditions que nous avons vues au travers de ce texte. C'est-à-dire, premièrement, acceptons dès aujourd'hui de nous laisser former par la sagesse de Dieu provenant de sa parole sainte. De Timothée 3,16. Laissons cette parole nous bénir, nous former, faire corps avec nous, marcher auprès de nous, nous sécuriser, vraiment chasser nos craintes aussi. Considérons cette sagesse divine dans sa pleine autorité comme seule norme dans nos vies. Réalisons aussi chaque jour l'étendue de la grâce sanctifiante de Christ qui s'est manifestée pour notre glorification, c'est-à-dire l'ensemble de l'œuvre de la foi, l'ensemble de l'œuvre du salut manifestée, préparée, déclinée en Jésus-Christ, appliquée, expérimentée maintenant dans nos vies. Et tout cela nous prépare au retour merveilleux de Jésus-Christ très bientôt. Comprenons qu'en Christ, Dieu a sécurisé nos bénédictions spirituelles afin que nous puissions toujours en bénéficier comme l'héritage indéfectible de notre espérance. Nul ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et Jésus a bien précisé que nul ne pourra ravir les brebis que le Père m'a confiées. Nul ne les ravira de ma main. Donnons à l'Esprit de Dieu toute sa place, le respect qui lui est dû, car c'est l'unique personne capable de nous instruire selon les richesses profondes du cœur de Dieu. Il va dans le cœur de Dieu, il prend ce qui est à Dieu, il vient ensuite déposer dans nos cœurs. N'est-ce pas merveilleux? Et là, nous sommes sûrs d'être dans la volonté parfaite de Dieu.
Amen.
de marcher avec assurance, d'être vraiment des enfants obéissants, pleinement préparés pour le pousser. Entraînons-nous à acquérir la sagesse du langage spirituel en employant par la prière, en désirant comprendre la volonté de Dieu, celle qui s'exprime au travers de l'Esprit de Dieu, un projet, une idée, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole missionnaire, une parole d'amour, de compassion, un projet communautaire. Dieu veut que nous soyons parfaits dans cette sagesse, que nous marchions de perfection en perfection, puisque il est lui-même cette sagesse incarnée, authentifiée, présente en permanence auprès de nous et dans nous. Rejetons avec force l'emprise de l'homme animal, l'homme irrégénéré, Paul va l'appeler aussi le vieil homme, qui ne cesse de guetter notre chute, notre disqualification, mais désirons laisser grandir l'homme spirituel, l'homme formé par Dieu, afin que nous soyons véritablement à l'image de Christ, que nous puissions ressembler et que nous puissions servir à la gloire de Dieu. Travaillons pour terminer sans relâche dans la recherche de la maturité chrétienne, afin que Christ soit formé en nous dans un environnement de piété. Amen. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons vraiment conformes à l'image de Christ formé en nous. Soyons bénis. Donnons-nous le coup de prier le Seigneur. Éternel, nous savons que tu ne parles pas en vain, parce que Seigneur, tu es la parole authentifiée, la parole incarnée, la parole faite chair. Et Seigneur, tu as parlé à nos cœurs ainsi, de cette façon, parce que tu veux notre sanctification. Tu veux notre perfectionnement. Parce que l'église que tu viens chercher, c'est nous. Seigneur, et tu ne veux pas une église infime, tu ne veux pas une église boiteuse, tu veux une église qui soit de nous, une église établie. Une église formée, des soldats de Christ, Seigneur, toujours formant, ayant l'armure céleste, afin, Seigneur, que lorsque la trompette de ton retour va claironner dans le ciel, que nous soyons prêts, effectivement prêts, parce que, Seigneur, nous pourrons donner tout au long de notre vie, de notre parcours, la première place et la gloire qui t'est due. Merci pour ce dévoilement de ce plan de sagesse que les hommes n'ont pas comprise, mais Seigneur, que tu as révélé pleinement à ceux qui t'aiment, à ceux qui te cherchent, à ceux qui veulent vraiment, Seigneur, demeurer sel de la terre et lumière du monde, afin que nous soyons ces flambeaux que tu désires dans ce monde. Je bénis cette église en ce matin, l'église de Dumay. Que cette église soit porteuse de fruits pour la gloire de Christ. Je bénis les dirigeants, le pasteur Crêpe, le pasteur Antipiteur Boli, et tous ceux qui sont vraiment, Seigneur, des ouvriers, des ouvrières dans ta moisson. Que, Seigneur, le phare que tu as allumé dans ce quartier, dans cette commune, dans cette Martinique, brille toujours au nom de Jésus, et qu'il y ait de nombreuses conversions. Et, Seigneur, que tous les malades soient guéris au nom de Jésus, et que, Seigneur, tous ceux qui sont aussi rétrogrades, reviennent à la bergerie. Seigneur, nous bénissons ton nom, car Seigneur, tu nous veux du bien et tu nous bénis pour cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.